Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, donc je vais donc vous dire un certain nombre de petites choses plus pratiques hein, concernant notre vie de prière. Donc des conseils, alors c'est à chacun après ça un petit peu de les recevoir, de les appliquer. C'est un domaine dans lequel c'est difficile de donner des règles générales strictes et bon. On a souvent une mentalité un peu marquée par la technique, donc on voudrait souvent avoir un peu le truc qui résolve les problèmes, qui rend tout facile, et des méthodes comme ça qu'il suffirait d'appliquer. Bon, enfin pour la prière, c'est toute une vie, donc c'est plus complexe. Alors il y a des principes de base, des choses qu'il est bon de dire, qu'on a partagées ces jours-ci. Après ça, c'est à chacun un petit peu de découvrir comment vivre les choses. Dans une souplesse, une liberté, mais en même temps une fidélité, puis aussi une certaine quand même discipline hein, qui parfois est nécessaire. Alors, je voudrais donner un peu certaines indications, je dirais certaines, ça, c'est des choses qui concernent pas la vie d'oraison, mais un petit peu la vie en général, et puis d'autres choses plus concrètes pour le temps de prière lui-même, quand nous désirons prendre un moment de prière. Une première chose que je voudrais dire, vous voyez, c'est que il y a un lien étroit, évidemment, entre ce qui se passe dans la prière, dans les moments que nous décidons de prendre pour prier, et puis le reste de l'existence. C'est pas deux domaines séparés, ce serait un petit peu embêtant. Et donc il y a une interaction entre les deux. Et en particulier, vous voyez, j'ai beaucoup insisté donc pour dire que ce qui était la base de la vie de prière, de la relation à Dieu, c'était donc les attitudes de foi, d'espérance et d'amour, de charité. Donc c'est ça qu'on pratique quand on fait l'oraison. Et si on les pratique dans la prière, bien c'est pour les vivre aussi ailleurs, dans le travail, dans les activités, face aux situations qui peuvent nous arriver. Bon, donc il y a une interaction importante entre les deux. D'une part, vous voyez, c'est ce qu'on pratique dans la prière pour le vivre ailleurs, mais en même temps, si on le vit seulement dans la prière, ces attitudes, et qu'ailleurs on les pratique pas, ben il y a un petit problème aussi, vous voyez. C'est-à-dire que dans ma vie de tous les jours, dans le travail, les relations avec les autres, face aux événements de l'existence, eh bien c'est important pour nous de mettre en pratique aussi cela, la foi, la confiance que Dieu est là, qu'il nous abandonne pas, l'espérance, donc accepter les pauvretés, les situations d'épreuve, en apprenant à s'appuyer sur Dieu de plus en plus, et puis aussi nous appliquer à aimer, nous appliquer à aimer Dieu, nous appliquer à aimer le prochain à travers nos engagements familiaux, professionnels. Bon, c'est vrai que plus on met de foi, d'espérance et d'amour dans la vie quotidienne, dans nos activités, bien plus au moment de la prière, ce sera facile, je dirais, de mettre en œuvre aussi ces attitudes intérieures dans ce que nous vivons à ce moment-là, dans notre manière de nous situer et de rencontrer Dieu. Vous voyez, donc en particulier, vous voyez, une conséquence de cela, c'est que si nous voulons que notre vie de prière soit féconde et qu'elle soit un lieu de croissance, de maturation humaine et spirituelle, eh bien c'est important aussi que dans le reste de la vie, il y ait pour nous ces attitudes de foi, d'espérance et d'amour. Et en particulier, oui, donc on soit enfin bien décidé à rechercher en tout la volonté de Dieu. Oui, je ne pourrais pas trouver Dieu dans la prière si je le cherche pas dans la vie. C'est logique. Et chercher Dieu dans la vie, ça veut dire s'appliquer autant que possible à plaire à Dieu, à accueillir sa volonté, à faire ce qu'il attend de nous, à répondre à ses appels. Oui, et plus dans ma vie de tous les jours, je cherche à accomplir vraiment la volonté de Dieu telle que je peux la comprendre. Bon, elle n'est pas toujours évidente. Parfois, on tâtonne un peu, mais enfin, je dirais, quand on vit dans l'instant présent, en général, on sait ce que Dieu nous demande. Et on ne sait pas toujours ce qu'il nous demandera dans 10 ans, ou parfois même dans une semaine. Mais quand on vit l'instant présent, la plupart du temps, on sait assez facilement ce que Dieu attend de nous. Mais plus, vous voyez, dans ma vie donc concrète, je suis désireux et décidé à mettre Dieu au centre et à faire sa volonté en toute chose, bien plus je pourrai le trouver aussi dans les moments de prière. Ça va de soi. Donc c'est un premier point sur lequel je voulais dire quelques mots. Donc un deuxième point, vous voyez, alors je l'ai un petit peu évoqué hier, donc je ne vais pas tellement insister, c'est que ce sera difficile aussi, enfin c'est un petit peu ce que je viens déjà de dire, mais d'un autre point de vue, ce sera un peu difficile de trouver la présence de Dieu dans le moment de prière si tout le reste de la journée je suis complètement en dehors de cette présence de Dieu. Vous voyez, si parfois on est obligé de faire des efforts terribles pour se mettre en présence de Dieu parce qu'on n'a pas pensé à lui depuis presque 24 heures. Bon, si on pense un peu plus souvent à lui pendant la journée, ce sera plus facile là, de le retrouver aussi quand on s'arrête pour le moment. Donc on a décidé vraiment de consacrer à la prière. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a vu hier, je ne vais pas reprendre là-dessus, mais à ce conseil que donne Laurent de la Résurrection, hein, qui est très beau et important, et je crois qu'il faut essayer autant que possible de le mettre en pratique. Bon, selon nos possibilités, bien sûr, hein, mais... qu'au cours de notre journée, eh bien le plus possible, notre vie de tous les jours soit marquée avec beaucoup de petits entretiens avec le Seigneur. Ne serait-ce qu'une petite pensée, une brève prière, un petit retour en son cœur pour remercier Dieu d'être là en nous. Et bon, enfin toutes les mille petites manières qu'on a de rétablir un petit contact avec le Seigneur au cours de la journée, hein, comme je le disais déjà, et puis en profitant de tout, hein, aussi bien d'un arc-en-ciel pour remercier que d'une difficulté pour l'invoquer, d'un choix un peu délicat à faire pour demander sa lumière. Vous voyez, donc que toute notre vie soit marquée comme cela par des petits entretiens avec le Seigneur. Et c'est sûr que c'est beaucoup plus facile si on vit cela dans la journée, après ça, d'être en présence de Dieu au moment qu'on a choisi pour la prière. Donc vous voyez, donc cette pratique de ce que j'appelais hier les micro-coupures, et c'est important. Et oui, il y a parfois des communautés où on prend un peu des moyens pour cela aussi. Je sais que il y a quelques années, j'avais visité la communauté de l'Arche, de Lanza del Vasto, et eux, ils ont cette habitude, même s'ils ne sont pas tous chrétiens, ils ont cette habitude que toutes les heures, la cloche sonne, et ils appellent ça le rappel. Et au moment où la cloche sonne, mais chacun doit un petit peu s'arrêter, quelques secondes, pour se remettre en présence de Dieu. Enfin, oui. Bon. Il y a des gens comme ça aussi qui font sonner leur montre de temps en temps pour se rappeler. Bon, c'est pas, chacun doit trouver un petit peu, hein, mais enfin, en tout cas, c'est une grâce à demander et à pratiquer. Hein. Et c'est important parce que, comme je le disais déjà hier, ça nous permet de prendre une certaine distance par rapport aux choses, de nous remettre fréquemment en présence du Seigneur et donc d'ajuster beaucoup notre relation aux personnes, notre relation au travail, au lieu d'être parfois pris dans un rythme où un peu d'emballement, de stress qui ne nous fait pas du bien. Et puis un autre point aussi qui me paraît important, vous voyez, c'est que si nous voulons être fidèles à la prière, il faut que les temps de prière que nous choisissons, hein, je crois qu'il faut que chacun se fasse une petite règle de vie. Hein, notre vie est faite de rythme. Oui, il y a le rythme du cœur, le rythme de la respiration, le rythme de la journée, du jour et de la nuit, le rythme de la semaine, le rythme du mois, le rythme de l'année. Bon, et la vie humaine est faite de rythme. Vous voyez. Et pour que nous soyons fidèles à la prière, eh bien, il faut que la prière, notre prière personnelle, nos moments précis de rencontre avec Dieu, soient inscrits dans ces rythmes. Oui, il y a des habitudes qui peuvent être mauvaises parce que c'est de la routine, mais l'habitude est aussi une force. Parce que quand on est habitué à prendre ce moment-là pour faire telle activité, eh bien, on se pose pas 50 fois la question. On sait que c'est le moment de... Alors, bon, on sait qu'à un certain moment, c'est le moment du petit déjeuner, c'est le moment du repas. Ça, bon, il peut y avoir de temps en temps des variantes et des retards, c'est pas grave, mais il y a beaucoup de rythmes de notre vie auxquels on est très, très fidèles. Oui, il y a des gens qui disent, moi, j'ai jamais le temps de prier. Mais moi, je dis, on a toujours le temps de manger. Hein. Et pourquoi on a le temps de manger? Parce qu'on sait que c'est essentiel. Et c'est pas qu'on a le temps, c'est qu'on le prend. Vous voyez, donc il ne s'agit pas d'avoir le temps de prier, mais il s'agit de prendre le temps de la prière. Si on attend d'avoir le temps, peut-être qu'on risque de ne jamais prier. Alors évidemment, Dieu n'a pas les mêmes exigences pour tout le monde, hein, en fonction des engagements. Donc il faut un petit peu dans notre rythme de vie, alors quotidien, hebdomadaire, mensuel, donc inscrire comme cela, hein, des bonnes habitudes de temps qui appartiennent au Seigneur, et puis c'est tout. Et on ne remet pas en discussion à chaque fois. Et on sait que c'est le moment où je fais, par exemple, une fois par semaine, ben je décide de faire une heure d'adoration à l'église de la paroisse parce qu'elle est proposée. Bon, ben, c'est l'heure d'adoration hebdomadaire. Comme il y a d'autres engagements hebdomadaires où, eh bien, et quand ça fait partie du rythme de vie, que c'est décidé une fois pour toutes, bon, il peut y avoir de temps en temps des exceptions, il faut une certaine souplesse, bien sûr, que la charité soit toujours prioritaire par rapport au reste, mais ça facilite les choses, c'est clair. Au contraire, si on n'a pas une certaine discipline, un certain rythme, ben, que chaque fois on est obligé de trouver le moment où on pourra enfin consacrer 5 minutes au bon Dieu, les choses deviennent plus difficiles. Et alors là, je dis, il faut prendre des rythmes qui soient équilibrés, c'est-à-dire qu'à la fois où vraiment soit inscrit dans nos rythmes de vie ces temps pour le Seigneur. Alors ça peut être des temps quotidiens, des temps hebdomadaires, ça peut être aussi parfois une journée mensuelle ou une après-midi ou une journée de, pour ceux qui le peuvent, de désert, de bon plus consacré au Seigneur. Hein, pour certaines personnes, ça peut être une bonne chose. Bon, le rythme annuel de retraite aussi, vous voyez. Donc là, c'est un petit peu à chacun de prendre son agenda, puis de voir à quel endroit il coche les moments pour le bon Dieu, vous voyez, en fonction de ses... Oui, donc ça, alors je dirais ce rythme de prière, il doit être à la fois, faut pas qu'il soit trop ambitieux parce que sinon on peut pas y être fidèle. Hein. Il faut être réaliste, mais en même temps il faut quand même qu'il y ait une partie réelle de notre temps qui soit consacrée à la prière. Enfin, moi, je peux donner un petit témoignage personnel, c'est que quand j'avais 26, 27 ans, là, j'ai traversé un moment assez difficile parce que, bon, pour différentes raisons, j'avais fait l'espérance dans une communauté que j'ai quittée, bon, c'était un peu douloureux pour moi, puis j'ai eu un peu un temps de découragement, j'ai un peu laissé tomber le bon Dieu, tout ça, pendant un certain temps. Enfin, ça n'a pas duré trop longtemps, heureusement, le Seigneur m'a rattrapé, mais... À un certain moment, bon, je me sentais pas bien du tout et j'avais un peu le sentiment que j'allais vers la mort. Vous voyez, en m'étant un peu coupé de Dieu et de la prière et bon, je pratiquais plus non plus. Puis à un moment, j'ai eu un sursaut parce que je sentais que si je continuais comme ça, j'allais vers la mort. J'ai eu une espèce d'évidence salvatrice. Je me suis dit non, je suis trop jeune pour mourir, il faut que je réagisse. Et donc j'ai été faire une retraite à ce moment-là dans un monastère de trappistes près de Lyon, l'abbaye des Dombes. Et puis j'ai senti une seule chose, vous voyez, c'est que le Seigneur me demandait justement de prendre du temps quotidien pour la prière, hein, et un quart d'heure. J'ai senti ça, oui. Enfin, je sais plus comment ça m'est venu. Bon, j'ai pas eu de paroles particulières, mais enfin une certitude intérieure, une intuition, vous voyez, qu'il fallait que je prenne tout simplement au moins un quart d'heure de prière tous les jours. Bon, c'est pas énorme. Mais quand même, c'est pas rien non plus. Et parfois, on peut trouver 1000 raisons de pas le faire. Bon, mais je me suis rendu compte quand même que très vite, ça portait des fruits. Bon, oui, ça demandait un certain courage, bon, pas extraordinaire, mais enfin quand même. Bon, j'avais une vie qui était assez prise quand même à cette époque-là. J'étais fidèle et je me suis rendu compte que très vite, ça changeait des choses. Oui, que je retrouvais quand même une paix. Bon, je me sentais mieux intérieurement, puis je voyais plus clairement quand même qu'est-ce que le Seigneur attendait de moi. Et puis, je dirais, j'ai retrouvé quand même un goût de la prière, un désir de Dieu, et qui, bon, puis ce temps de prière après a augmenté. Hein. Bon, puis je crois que c'est grâce à ça que le Seigneur a pu me conduire. Hein. Vous voyez, parfois la fidélité comme ça, un rythme de prière qui n'est pas extraordinairement, mais quand même qui demande une certaine fidélité, eh bien ça peut beaucoup transformer les choses dans notre vie. Donc vous voyez, lâchez un petit peu à chacun de réfléchir, de discerner, puis de voir un petit peu dans sa vie concrète hein, quels sont les moments hein, de la journée ou de la semaine hein, qui peut réserver à ces moments d'intimité avec le Seigneur et puis y être fidèle. Hein. Bon, parfois ce sera une joie, ce sera facile, d'autres moments ce sera plus un combat, hein, mais à long terme, on a tout à y gagner. Donc vous voyez, c'est question du rythme. Hein, de l'habitude au sens positif du terme qui simplifie les choses. Et on n'a pas à discuter à chaque fois est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. On le fait et puis c'est tout. Parce que... Alors donc ça, c'était un petit peu des remarques pour ce qui concerne notre vie en général, en dehors du temps lui-même de la prière personnelle, de l'oraison. Alors, donc maintenant, je vais faire des remarques sur... j'ai décidé par exemple hein, de prendre tous les jours un quart d'heure ou une demi-heure hein, vraiment pour le bon Dieu, pour cette prière personnelle, ce dialogue intime hein, avec lui, cette rencontre. Alors en pratique, qu'est-ce que je vais faire pendant ce quart d'heure ou cette demi-heure hein? Comment je vais occuper mon temps? Bah, parfois c'est une vraie question. Hein. Bon. Alors, ce que je dirais, c'est d'abord, parfois la question se pose pas, parce que je dirais, on est dans un moment de ferveur, on est un jeune charismatique qui a à peine reçu l'effusion du Saint-Esprit, puis qui loue le Seigneur du matin au soir, spontanément. Oui. Donc parfois ça pose pas de problème, parce que je dirais tout simplement, on a une soif de Dieu, un désir de Dieu, une ferveur, on est content d'être avec lui, et puis on vit ce moment-là, sans difficulté. Bon, mais enfin, parfois la question se pose, hein, justement, parce qu'on est plus dans l'aridité, la sécheresse, ou des étapes de la vie spirituelle. Il y a des étapes de la vie spirituelle où on est simplement appelé à recevoir. Oui, Thérèse d'Avila, quand elle parle de la vie d'oraison, justement, dans le chemin de la perfection ou d'autres écrits ou son autobiographie, elle compare souvent cette question de la vie d'oraison avec la météo, la pluviosité. Ou l'absence, ou la sécheresse. Elle a dit, alors il y a des moments où effectivement la pluie tombe toute seule, donc là, l'image qu'elle utilise, c'est celle d'arroser un jardin, oui, d'arroser le jardin de notre âme, d'un peu de ferveur et d'amour. Et donc il y a des moments, c'est pas la peine d'arroser parce qu'il pleut. Donc ben, on laisse la pluie tomber et puis c'est tout. Autrement dit, c'est ces moments où il suffit simplement de se mettre en présence de Dieu et puis on est content d'être là. Alors ça peut être très très simple, très pauvre, en ce sens qu'on n'a pas forcément des sentiments extraordinaires, on n'a pas forcément des lumières fantastiques, mais on est là devant Dieu, on est content de... Elle dit comme un petit âne qui broute son herbe, dit-elle, quelque part, oui. Donc on est content de brouter un peu tranquillement là, la présence du Seigneur ou telle parole. Donc on est là simplement en présence de Dieu, dans un acte simple et profond de foi, de confiance, d'amour, d'ouverture, de disponibilité. Et puis on se tient comme ça. Donc un certain recueillement qui nous est donné, je dirais. Bon, ça c'est déjà une grâce. C'est déjà plus que ce que nos efforts peuvent produire. Mais quand on est dans cet état de grâce, je dirais, bien il faut y rester. Il s'agit pas de chercher des choses compliquées, mais alors cet état, je dirais, il est caractérisé un peu de la manière suivante, c'est-à-dire que, alors au niveau de la tête, de l'imagination, ça va un peu à droite à gauche, parce qu'on peut jamais totalement fixer la pensée, c'est absolument impossible. Bon, sauf dans des cas exceptionnels, des cas d'extase où vraiment ça peut être le corps lui-même et la pensée qui sont complètement fixés en Dieu, parce que Dieu, il y a une emprise de Dieu qui est tellement forte, vous voyez. Mais ça, c'est exceptionnel. Hein. Bon, ça m'est jamais arrivé. Ça vous arrive, bah, acceptez-le. Mais je dirais habituellement, on peut avoir une vie de prière profonde quand même, même si on n'est pas totalement fixé au niveau mental, hein, au niveau de cérébral, vous voyez, parce que le cerveau, donc il y a toujours une certaine part d'imagination, des choses qui passent, mais c'est pas grave, vous voyez, un certain bruit de fond, mais c'est pas grave du moment que le cœur, la volonté aime, oui. Et donc, comme dit Thérèse d'Avila, dans l'oraison, c'est j'ai pas de penser beaucoup, mais d'aimer beaucoup. Mais donc, on peut être dans cet état où le cœur il y a un amour de Dieu, alors qu'il est pas forcément extrêmement sensible, ardent. Ça peut être il y a le feu qui jette des flammes vives, mais il y a aussi le feu qui couve sous la cendre, mais qui est un feu. Donc il peut y avoir un amour profond de Dieu, vous voyez, une paix, on est content d'être en sa présence, même s'il n'y a pas d'émotions fantastiques, et même si au niveau de l'imagination, ça tourbillonne un peu comme on peut pas l'éviter. Mais donc oui, mais le cœur est tourné vers Dieu. Le cœur, la volonté, le désir, l'amour est tourné vers Dieu et on est là et on est bien comme ça. Et on est en paix. Et donc il faut y rester dans cet état, hein, y rester ou l'entretenir tout simplement par de bonnes pensées ou si par exemple on a commencé à méditer à partir d'un texte et puis donc reprendre une chose. Donc cet état, il faut le nourrir tout simplement, voyez, à l'entretenir. Bon. Alors quand on est dans cet état, ben il faut y rester, hein, il faut pas chercher midi à 14h. Hein, et Dieu travaille dans le secret. Hein. Il nous instruit en secret, dépose en nous des choses dont on n'a pas forcément conscience mais qui sont données. Alors, par contre, la question se pose quand on n'est pas dans cet état, vous voyez, quand on n'est pas dans un recueillement. Alors, pour reprendre un peu l'image qu'utilise Thérèse d'Avila, donc celle que je viens d'évoquer, c'est le cas où la pluie tombe seule. Alors, c'est une pluie qui est douce, une petite bruine. C'est pas forcément les grosses averses tropicales. J'ai fait des enseignements en Nouvelle-Calédonie. Parfois, on était obligé d'arrêter l'enseignement tellement l'orage, parce que c'est souvent des toits en tôle, vous voyez. Quand vous avez un orage tropical qui tombe sur un toit en tôle, vous pouvez vous taire, hein, plus personne n'entend rien. Bon, alors parfois, la pluie peut être très, très abondante, parfois c'est une fine bruine, vous voyez, simplement qui descend, et donc cet état intérieur de paix, de tranquillité, amoureuse, en présence de Dieu. Donc quand on est dans cet état-là, ben, c'est un don de Dieu, il faut tout simplement l'accueillir et, l'entretenir. Mais donc il y a d'autres moments, par contre, on est beaucoup plus dans la sécheresse. Alors Thérèse d'Avila dit là, ben, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ben, il faut pas rester inactif. Il faut quand même arroser son jardin. Autrement dit, il faut que tu prennes ton petit seau puis que tu ailles à la rivière à côté prendre un peu d'eau, puis jeter un peu d'eau dans ton jardin, puis que tu fasses des allers-retours quand même pour... Bon, autant que possible, hein, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a parfois des moments où on a beau faire ce qu'on veut, on a quand même du mal à... Mais enfin, il faut quand même... on a du mal à accéder à un état de ferveur. Hein, on peut pas toujours, parce que parfois, il y a une sécheresse qui est permise par Dieu, mais quand c'est une sécheresse qui est permise par Dieu, il y a quand même la volonté qui désire Dieu, qui aime Dieu. Oui, dans une certaine aridité, mais un amour véritable, et ça suffit. Hein, et il y a quand même une paix qui est liée à ça, oui. Alors donc là, je vais parler, si vous voulez, de ce que nous pouvons faire justement quand il s'agit d'être un peu plus actif, hein, ou pour entretenir un état de recueillement. Alors, dans quelques remarques, je dirais, en général, quand on veut s'adonner comme ça fidèlement à la vie d'oraison, bon, on choisit, hein, de donner un moment au Seigneur. Donc ça peut être un quart d'heure, ça peut être une demi-heure, ça peut être une heure, en fonction des moments, des possibilités. Alors bon, première remarque, je dirais, ce qu'il faut faire, c'est soigner le début et soigner la fin. Hein? Bon, puis entre les deux, on fait ce qu'on peut. Si je puis. Soigner le début, c'est-à-dire que le début, il faut vraiment se mettre en présence de Dieu, vous voyez, de manière bien, bien décidée, bien explicite, et puis utiliser un peu ce qui nous aide pour cela. Alors ça peut être invoquer l'Esprit Saint, se confier à la Vierge, mais surtout, le plus important, c'est... commencer par une prière qui nous aide, hein, mais vraiment se mettre en présence de Dieu, hein, dans un acte de foi. Et alors ça peut être à travers les mots qu'on dit au Seigneur: Seigneur, tu es là, je te rends grâce. Et puis on se rend attentif à la présence de Dieu. Alors ça peut être la présence dans le Saint-Sacrement, si c'est un temps d'adoration eucharistique, ça peut être tout simplement Dieu qui est là auprès de nous, le Père qui nous regarde du haut du ciel, ça peut être le Christ, notre ami, qui est à côté de nous, ça peut être aussi Dieu présent dans notre cœur. Mais selon un peu les différentes formes de la présence de Dieu. Mais donc, nous mettre en présence, nous rendre attentifs à cette présence, accueillant cette présence. Et donc là, il y a vraiment des actes à poser, je dirais. Enfin, sauf quand ça se fait tout seul. Parfois, ça se fait tout seul, j'entre à la chapelle, puis immédiatement, presque, je suis dans l'état que je décrivais tout à l'heure, de présence simple et amoureuse au Seigneur. Bon, si on y est mis tout de suite, tant mieux. Mais ça, c'est déjà de l'ordre d'une grâce. Et souvent, on a quand même besoin... Hein, donc, oui, quand on entre, par exemple, à l'église, ou quand on va dans son petit coin oratoire, hein, dans le coin de sa chambre, on a mis un petit autel, une petite icône, une bougie qu'on allume. Bon, il faut vraiment qu'il y ait cette mise en présence de Dieu. Hein, c'est très important parce que, hein, on rencontre quelqu'un, donc il faut vraiment que, hein, il n'y a pas de rencontre, il y a une prise de contact dans toute rencontre, hein, ne serait-ce qu'une salutation. Hein. Donc vous voyez, établir le contact avec Dieu, se mettre en présence, hein, dans des actes de foi et d'amour. Hein, puis on peut invoquer l'Esprit, hein, demander au Seigneur de nous enseigner à prier, nous confier à la Vierge. Enfin, bon, là, dans une grande liberté, hein, évidemment. Oui, l'oraison, c'est de l'ordre de l'amour. Hein, et quelque part, il n'y a pas de méthode pour aimer. Enfin, la seule méthode pour aimer, c'est d'aimer. Bon... Mais en même temps, il y a quand même des choses qu'il faut dire. Donc oui, soigner le début, puis je dirais aussi soigner la fin. Hein? C'est-à-dire que quand on quitte ce temps d'oraison, vous voyez, et je dirais que qu'on ait bien prié ou mal prié, à la limite, peu importe. Hein? Si on a bien prié, en ce sens que ça a été un moment de paix, de grâce, eh bien, il faut remercier le Seigneur. Hein? Et puis essayer de garder de ce qu'on a vécu, certaines résolutions. Par exemple, pendant ce temps de prière que j'ai vécu, à supposer que j'ai médité un texte, et j'étais touché, par exemple, par la figure de Jésus comme bon berger, ce bon berger qui prend soin de moi, qui, etc. Alors c'est bien que, un peu en conclusion de la prière, il y ait cette action de grâce d'abord, toujours, remercier Dieu pour le temps qu'on a passé avec lui. Même si on était un peu distrait, même si ça n'a pas été fantastique, on a quand même passé un quart d'heure ou une heure avec le bon Dieu. On ne peut que dire merci. Et même si moi j'ai pas fait grand chose, Dieu a fait quelque chose. Et donc remercier Dieu pour ce temps qu'on a passé avec lui, puis essayer de garder un peu dans notre cœur certaines résolutions, certains désirs, et lui demander d'y être fidèle. Si j'étais touché par l'appel de Dieu à pardonner, si j'étais touché par l'appel de Dieu à être une brebis qui écoute sa voix, bon ben, vous voyez, garder un petit peu des orientations de vie. Alors, ça veut pas dire qu'il faut se faire tout un programme énorme, mais quand même, vous voyez, qu'il y a une certaine volonté de mettre en pratique ce qui a pu être reçu pendant le temps de prière. Parce que plus il y aura ce désir de mettre en pratique les choses, et bien plus Dieu donnera, c'est clair. Et puis essayer ensuite, dans le cours de la journée, bah peut-être d'être fidèle à telle ou telle invitation qu'on a pu recevoir. Si on a reçu une invitation à la douceur envers le prochain, bah, et que 10 minutes après, il y a quelqu'un qui s'énerve devant nous, ben, disons, merci Seigneur, tu me donnes l'occasion de pratiquer. Est-ce que... Voilà. Et il y a des liens parfois beaux, vous voyez, providentiels, entre des choses qu'on vit dans la prière et puis des événements de la journée. Il y a vraiment une interaction très très profonde entre les deux. Oui, et je dirais que oui, même si on a le sentiment qu'on a mal prié, que on était à côté de la plaque, qu'on a plus été en contact avec sa misère, qu'il n'y avait pas beaucoup de ferveur, il faut jamais se décourager. Le grand piège de la vie spirituelle, c'est le découragement. Il faut quand même remercier le Seigneur, parce que de toute façon, on a passé un temps avec lui, et même si nous on n'a rien fait, lui il a fait quelque chose. Et donc, il faut toujours partir content de la prière. Qu'elle était bonne ou qu'elle était mauvaise, il faut jamais partir déçu. Parce que ce serait une erreur. De toute façon, Dieu voit notre bonne volonté. On lui a donné un quart d'heure, on lui a donné une demi-heure. Il s'est passé quelque chose. Il faut lui rendre grâce. Puis, ce que je dirais aussi, vous voyez, c'est que... alors, ce que je dis, c'est pas apprendre de manière rigide, mais en général, soyez attentifs à ne pas écourter nos temps de prière. Quand on a décidé de prier une demi-heure, on prie une demi-heure. Mais quand on a décidé de prier une heure, on prie une heure. Et c'est bien, quelque part, de se fixer un temps. Là, pour pas être trop livré à la subjectivité. Dire, je vais prier tant que j'ai envie de prier, et puis dès que j'ai plus envie, j'arrêterai, c'est pas pédagogique, mais c'est pas éducatif, parce qu'on est trop livré à l'émotionnel. Et il faut un petit peu de rationnel dans la prière, enfin, pas d'objectif, vous voyez, pour grandir. Donc, oui, si, par exemple, on a pris comme résolution de consacrer tous les jours une demi-heure à la prière avec le Seigneur, eh bien, il faut que la demi-heure soit une demi-heure. Bon, il peut y avoir des exceptions, une urgence, quelqu'un qui sonne à la porte, et bon, donc c'est pas une... faut pas en faire un drame si ça se passe autrement, mais il faut y être fidèle, parce que justement, ça objective les choses, et puis, ce qu'on note parfois, c'est que c'est souvent qu'on a tort d'écourter, de dire bon ben voilà, j'ai pris 25 minutes, ça suffit, on arrête. Parce que parfois, c'est dans les 5 dernières minutes quelque chose qui se passe. C'est souvent dans les derniers moments que Dieu donne, parce que justement, on a été fidèle. Et comme on a été fidèle jusqu'au bout, il y a une bénédiction qui est donnée. Alors, je dis pas que c'est une règle absolue dans tous les cas, mais parfois, c'est ce qui se passe. Le Seigneur réserve le meilleur pour la fin. Oui, parfois on prie comme ça de manière un petit peu pauvre, un petit peu bon, pas très glorieuse et tout, mais on est fidèle. Et puis il y a comme une grâce de paix qui nous est donnée, un peu au dernier moment, parce que justement on a été fidèle. Un peu un surcroît de grâce qui nous est donné comme ça. Et donc écourter la prière trop facilement parce qu'on a plus tellement envie de continuer, eh bien ça veut dire parfois se priver du meilleur. Mais qui parfois est réservé pour la fin, un peu comme récompense à une fidélité. Oui, donc soigner le début, soigner la fin, puis donc entre les deux, ben on fait ce qu'on peut. Alors, quelle activité donc utiliser pendant ce temps d'oraison? Alors moi, il y a plusieurs possibilités évidemment. Alors il y a un peu deux grands axes, vous voyez, dans les différentes traditions de l'Église par rapport à l'utilisation de ce temps de prière. Il y a un axe qui est celui de la méditation. Alors, autrement dit, alors et là je pense que le mieux évidemment c'est de partir de la parole de Dieu. Moi c'est le conseil que je donnerais, hein, partez de la parole de Dieu. Si vous savez pas trop comment prier, comment nourrir votre prière, donc partez de la parole de Dieu. Donc prenez par exemple, alors ça peut être soit un évangile qu'on lit en continu, ça peut être soit les textes du jour, c'est très pratique aujourd'hui avec des magnificats des prières en église, on a des textes bien choisis, qui se complètent, qui sont nourrissants en général. Donc je pense que le plus simple, quand une personne veut vraiment donner du temps à l'oraison, de manière fidèle, eh bien le plus simple c'est peut-être de faire comme ça. Après cette mise en présence de Dieu, eh bien méditer un texte, et puis transformer cette méditation en prière. Oui. Alors il s'agit de lire, de se laisser pénétrer, de ruminer, de répéter, vous voyez. Oui, méditer dans l'écriture, le mot hébreu léagide, pour nous méditer, c'est très souvent devenu un peu cérébral. Pour nous méditer, c'est réfléchir sur. Alors je dis pas que l'intelligence n'a pas sa part d'accueil, mais je dirais que la méditation au point de départ, c'est un acte physique, c'est une répétition, mais une rumination, et qui fait qu'à force de ruminer telle ou telle parole, eh bien elle finit par comme s'ouvrir et dégager un parfum, une onction qui peut toucher le cœur. Donc ne pas hésiter à lire une première fois, par exemple, un texte d'évangile, parfois le lire à haute voix quand on est tout seul, parce que ça peut aider. Ne pas hésiter à revenir, à répéter tel verset, à relire. Et on s'aperçoit parfois que c'est après avoir lu 10 fois un verset, mais vraiment lentement dans la prière. Avec à la fois une application de l'intelligence, mais un désir du cœur, de l'amour, vous voyez. Et c'est parfois après avoir passé un certain temps comme ça à ruminer le texte qu'un sens un petit peu se dégage pour nous. Et donc à partir de ce que le texte donne, eh bien que ça se transforme en prière. Par exemple, on est touché par tel verset, ça nous montre combien Dieu est proche, ou bien on sent un appel à telle conversion, eh bien transformer ça en prière. Remercier Dieu pour ce qu'on a compris, lui demander la grâce de mettre en pratique des choses que le texte nous a révélées, etc. Vous voyez, donc une répétition qui devient prière. Et puis une prière qui à un certain moment peut s'arrêter. C'est-à-dire que on peut, donc à partir de cette méditation, arriver dans cet état que je décrivais tout à l'heure, où on sent bien qu'on n'a plus trop besoin de réfléchir. Mais il s'agit simplement de rester présent à cette vérité qui nous touche. Et de nous laisser, de nous nourrir de cela. Et je goûte profondément la bonté de Dieu, par exemple, comme bon berger, et je sens que, il faut arrêter de réfléchir. Il s'agit pas de multiplier les idées, mais que quand un thème est pour moi important, nourrissant et beau, bien, de le garder tout simplement dans mon cœur et de rester là. Et donc c'est là que la lecture devient un peu contemplation. Et dans tous les traités du Moyen-Âge sur la lectio divina, il y a un peu ces 4 étapes, hein, la lecture, la méditation, la prière et la contemplation. Lectio, meditatio, ratio et contemplatio. On trouve ça dans tous les traités classiques. Mais c'est un peu ça, vous voyez. C'est-à-dire qu'il y a la lecture attentive, mais cette répétition, cette rumination, qui devient prière, dialogue avec Dieu. Et un dialogue qui, à certains moments, devient simple présence. Oui. Il n'y a plus besoin d'utiliser 1000 mots, d'être tellement actif. Mais là, il y a une pluie qui commence à tomber un peu toute seule, donc on accueille simplement à partir de... Et puis conclure, un peu comme je l'ai dit, en rendant grâce à Dieu, puis en essayant de garder dans notre cœur des paroles pour les vivre dans le quotidien. Petite parenthèse aussi, vous voyez, quand on fait un peu la prière à partir de la parole de Dieu, la lectio divina, comme on a fait l'autre jour, ça peut être très très bien aussi de noter, d'écrire. Par exemple, soit d'avoir le texte qu'on peut souligner dans la Bible, ou bien noter des versets. Un verset qui nous parle, eh bien... le noter, l'écrire, et puis essayer parfois d'en apprendre par cœur. Et oui, une certaine mémorisation de la parole qui fait beaucoup, beaucoup de bien aussi. Hein, parce qu'après ça, elle nous revient plus facilement à la mémoire quand dans telle ou telle situation, cette parole peut nous aider et nous encourager. Donc ça peut être bien, vous voyez, d'avoir son petit cahier de lectio divina où justement on note des versets de l'écriture qui nous parlent plus particulièrement et on peut de temps en temps y revenir. Alors cette méditation, je dirais, donc elle peut partir de la parole. Bon, parfois ça peut être autre chose, ça peut être aussi un texte d'un auteur spirituel qu'on médite, hein, ou ça peut être à l'occasion d'une fête particulière, une méditation sur un mystère, une méditation sur la nativité, sur la crèche, donc en essayant de se rendre présent à ce mystère aussi par les sens, par l'imagination. Hein, donc bon, ça c'était un peu les méthodes qui étaient beaucoup utilisées en Occident. On a beaucoup développé ça au XVIe, XVIIe siècle, un peu ce qu'on appelait la méditation méthodique, avec un peu tout un parcours et des thèmes, des thèmes de méditation, un peu dans le sens aussi de ce qui est vécu dans les exercices spirituels de Saint Ignace. Donc où on essaie d'approfondir, de se rendre présent à un mystère de la vie du Christ en imaginant, en essayant de réfléchir, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire à travers ça, bon, etc. Alors, donc ça peut être une bonne manière de procéder. Bon, faut pas que ça devienne un truc trop intellectuel. Et puis aussi, il faut qu'on sache qu'à certains moments, la méditation, elle peut parfois être impossible et difficile. Et parfois, ce que Dieu nous demande, justement, c'est pas tellement un travail de l'intelligence, c'est pas tellement une prière active, mais c'est ces moments plus de réceptivité que j'évoquais tout à l'heure. Donc là, il peut y avoir parfois des personnes comme ça qui trouvent beaucoup de goût et de nourriture dans une méditation assez abondante, assez riche. Puis à certains moments, elles s'aperçoivent qu'elles n'y arrivent plus. Ça devient un peu fatigant. Mais ça peut être un appel, justement, à une prière plus pauvre, plus simple, de simple présence à Dieu, dans une attitude de confiance et d'ouverture aimante. Vous voyez que cet état que je décrivais tout à l'heure, qui est déjà une grâce, où il ne s'agit pas tant d'être actif de notre côté à nous que de recevoir ce que Dieu est en train de donner de manière mystérieuse, un peu cachée, mais réelle, dans une paix et une disponibilité qui habite notre cœur à sa présence. Donc ça peut être donc un axe important, donc celui qui est la méditation. Et je pense que de manière privilégiée, c'est la parole de l'Écriture qu'il nous faut prendre comme objet de notre méditation. Une méditation qui devient prière et présence à Dieu. Alors il y a aussi un autre grand axe dans les traditions spirituelles de l'Église chrétienne, qui est l'utilisation de prières répétitives. Vous voyez. Alors pour nous, bon catholiques, ça peut être le chapelet, par exemple, et c'est pas du tout interdit. Et parfois même, quand on a beaucoup de mal à prier autrement, moi je sais que personnellement, quand j'ai parfois du mal à me recueillir, à fixer un peu mon esprit, eh bien, je sais que le fait de prendre le chapelet puis de dire tout simplement comme ça quelques dizaines, ça fait un peu un travail d'apaisement, de pacification à travers le rythme, qui fait qu'on est davantage recueilli et davantage unifié et ouvert à Dieu qui est là et qui avec qui on veut entrer en relation. Donc vous voyez, c'est des méthodes qui font moins appel à la réflexion, à l'intelligence, qui font plus appel à des choses plus basiques, je dirais, un petit peu au niveau humain. Corporel, mais en même temps qui peuvent avoir aussi une belle fécondité pour nous introduire en présence de Dieu. Alors, il y a par exemple ce qu'on connaît en Orient, ce qu'on appelle la prière du cœur, la prière de Jésus, qui est une prière répétitive. Donc, alors il faut nous mettre en présence de Dieu, il faut entrer dans ce recueillement autant que possible, mais il s'agit de nourrir la prière, donc non pas à travers une méditation, mais de nourrir la prière par la répétition d'une parole qui en général est une parole de l'Écriture, et donc il y a une grande tradition qui s'est développée donc en Grèce, en Russie, enfin qui est très ancienne, de répétition de cette prière inspirée de l'Évangile, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, prends pitié de moi pécheur. Ou ça peut être d'autres formules. Alors peut-être que certains d'entre vous ont lu ce très très beau livre. Si vous l'avez pas lu, je vous le conseille, le récit d'un pèlerin russe. C'est justement l'histoire d'un brave homme qui cherche Dieu, qui cherche la prière, qui parcourt toute la Russie pour trouver des maîtres qui lui enseignent à prier, puis trouve un maître qui lui enseigne justement cette forme de prière qui était très traditionnelle dans certains milieux monastiques, mais aussi populaires de Russie. Alors, disons que la technique, c'est un peu celle-là, c'est donc de répéter doucement cette prière, ou ça peut être aussi une autre formule, enfin qui contient le nom de Jésus. La plupart du temps, il y a toute une belle spiritualité du nom de Jésus aussi, qui contient tout le mystère de Dieu, où le nom c'est la personne, et la personne du Verbe c'est aussi Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Il y a une répétition de cette formule tout en étant attentif à cette présence de Dieu en soi, et puis en associant aussi cette répétition avec des rythmes de respiration. Par exemple, on peut inspirer en disant « Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant », et puis expirer « Prends pitié de moi, pécheur ». Donc il y a une étude à la fois de confiance, d'humilité, oui, et inscrit un peu sur un certain rythme de respiration. Alors, il ne faut pas que ça devienne un truc un peu mécanique, un peu un forcing, ça peut être un petit peu dangereux, mais c'est vrai que à travers cette manière simple de prier, eh bien, on peut entrer vraiment en présence de Dieu, dans un recueillement, et goûter donc la présence de Dieu dans son cœur. Et l'avantage de ce genre de prière, c'est qu'on peut l'utiliser un peu partout, pas seulement quand on prie à l'église, mais aussi en voyage, dans une queue de supermarché. Mais quand on a pris une certaine habitude de prier comme ça, alors la prière peut devenir à un certain moment, alors au début c'est une activité, Il y a un côté volontaire, mais peu à peu, elle peut descendre dans le cœur et devenir comme une espèce de respiration un peu permanente, où le nom de Jésus, elle se simplifie souvent, et c'est le nom de Jésus qui habite le cœur de la personne de manière presque permanente. Donc un moyen d'aller vers la prière continuelle. Alors c'est une méthode qui a des côtés très beaux, puis qui a conduit beaucoup de personnes à la sainteté, à la contemplation. En même temps, bon, il peut y avoir un petit peu des excès, des dangers dans cette manière de procéder. Donc ça peut être bien d'être accompagné peut-être si on veut pratiquer de manière assidue cette forme de prière. Mais en tout cas, je dirais de manière un peu simple, normale, à un certain moment, je crois que des prières répétitives comme ça peuvent être une grande aide pour entrer dans le recueillement et dans la présence de Dieu. Et puis le chapelet peut-être aussi, vous voyez, une de ces formes de prière, surtout dans des moments où on a du mal à se concentrer, où vous voyez le côté physique aussi de dégrener les grains du chapelet, de répéter, ça introduit dans un rythme. Et puis s'il y a vraiment ce désir de Dieu, je crois que Dieu répond à ce désir. Et aussi dans le chapelet, eh bien la chose qui est belle, c'est Marie qui est là, qui nous introduit dans la présence de Dieu, dans les mystères du Christ. Donc vous voyez, dire le chapelet lentement, avec amour, dans une vraie recherche de Dieu, peut-être un moyen aussi d'entrer dans une prière très profonde. Il y a des gens qui sont devenus des grands contemplatifs, tout simplement grâce au rosaire. Je voudrais vous lire à ce propos considération de l'ancien général des dominicains, donc un dominicain anglais, Timothy Radcliffe, que vous connaissez peut-être. Dans un de ses livres, il y a un chapitre sur justement le rosaire, et il parle un peu de cette question de la répétition. Parce que c'est vrai, souvent ce qui nous fait un petit peu, ce qu'on n'aime pas trop, c'est le côté répétitif. On a peur que ce soit un peu une routine, vous voyez. Et alors c'est vrai qu'il peut y avoir dans la répétition ce côté routinier, mais dans la répétition il y a aussi une chose qui est belle. Alors voilà ce qu'il dit. On pourrait souligner que cette répétition n'est pas nécessairement le signe d'un manque d'imagination. Un pur plaisir, un plaisir exubérant, peut nous faire répéter les mots. Quand nous aimons, nous savons bien qu'il ne suffit jamais de dire une seule fois « je t'aime ». Nous voulons le dire encore et encore, espérant aussi que l'autre souhaitera l'entendre encore et encore. Oui, quand des mots expriment l'amour, on se lasse pas de les dire, quelque part. Alors Chesterton, donc un auteur anglais, un catholique, a expliqué que la répétition est une caractéristique de la vitalité des enfants, qui aiment qu'on leur raconte les mêmes histoires, avec les mêmes mots, encore et toujours, nullement par ennui ou manque d'imagination, mais par joie de vivre. Mais Chesterton écrivait « C'est parce que les enfants débordent de vitalité, parce qu'ils sont farouches et libres d'esprit, qu'ils veulent que les choses se répètent et ne changent jamais. Ils demandent toujours encore. Et la grande personne recommence encore jusqu'au bord de l'épuisement, car les grandes personnes ne sont pas assez fortes pour exulter dans la monotonie. Peut-être Dieu, dit-il tous les matins au soleil, « Allez, encore !» et tous les soirs à la lune, allez encore. Ce n'est pas forcément une absolue nécessité qui fait toutes les marguerites semblables. Peut-être Dieu crée-t-il chaque marguerite séparément, mais ne se lasse jamais de les faire ainsi. Peut-être Dieu a-t-il un éternel appétit d'enfance, car si nous avons péché et nous avons grandi, notre Père est plus jeune que nous. La répétition dans la nature n'est peut-être pas une simple récurrence, mais comme au théâtre, un bis, où le ciel rappellerait l'oiseau qui a pondu. Donc, Chesterton. Et je crois qu'il y a une vérité là-dedans, vous voyez. Et si notre récitation du rosaire ou de la prière de Jésus est faite dans un vrai amour, une vraie recherche de Dieu, eh bien, cette répétition n'est pas du tout un inconvénient, mais au contraire, nous fait entrer dans un rythme vital, vous voyez. Un peu en lien avec nos rythmes corporels et psychiques. Et quelque part, c'est très beau parce que c'est toute la plénitude de l'être humain qui s'exprime, à la fois le corps, la respiration, le cœur, mais et aussi l'amour, la foi, l'espérance, les attitudes spirituelles, tout cela va ensemble. Vous voyez, je crois que ces prières un petit peu de type répétitif, elles peuvent être une aide grande aussi pour la vie d'oraison. Que vous voyez, quand nous sommes dans le temps donc que nous consacrons à la prière, ce qu'il nous faut favoriser, c'est donc ce recueillement. Mais qu'est-ce que c'est que le recueillement? Quelle est la formule chimique, pourrait-on dire, du recueillement? Et dans le recueillement, il y a en fait deux choses. Il y a d'une part un état de réceptivité. Donc je dirais un état de détente. Voyez. Pour être recueilli, il faut être dans l'instant présent. Ça, c'est très très important. On ne peut prier que dans l'instant présent. C'est pour ça que quand on a fait notre petit moment de lection, j'ai fait un petit peu ce petit exercice, de nous mettre dans l'instant présent, en contact avec le réel, de respirer doucement. Et parfois, c'est une bonne chose parce qu'on est beaucoup dans le cérébral. Et le cérébral, il est tout le temps avant, arrière, à droite, à gauche. Il n'est pas posé dans l'instant présent. Tandis que le corps, il a ses pesanteurs, ses lourdeurs, mais il a un grand avantage, c'est qu'il est dans le réel. Et être en contact avec son corps, c'est aussi être dans le réel et dans l'instant présent. Et parfois, pour prier, on a besoin de retrouver un certain contact avec le corps. Se recevoir soi-même comme être corporel, et recevoir le monde physique, pour être dans l'instant présent. Et donc, être dans l'instant présent, aujourd'hui, donc ça veut dire laisser les soucis, les inquiétudes. On n'est pas là pour résoudre des problèmes, on est là pour être avec Dieu, maintenant, tel que je suis, l'aujourd'hui de Dieu. Donc nous mettre dans l'instant présent et de manière détendue. Voyez. Alors cette détente, c'est une détente qui est essentiellement intérieure. Autrement dit, qu'est-ce que c'est qu'une détente intérieure? C'est qu'on est réceptif. On n'est pas crispé, on n'est pas fermé. Voyez, on est ouvert, réceptif. Et c'est vital pour la prière. Mais cette attitude intérieure de réceptivité, donc d'abandon au plan spirituel, elle est facilitée aussi par une attitude psychologique de détente, laissons de côté les soucis, les problèmes, rendons-nous présents au Seigneur. Il n'y a que ça qu'on a à faire. Le reste, Dieu y pensera. On s'occupe de Dieu et Dieu s'occupera de nous. Mais ça peut être facilité aussi un peu par une certaine détente physique, voyez. Et parfois, c'est pas mauvais justement quand on veut prendre un temps de prière de se détendre. Alors soit quand on commence la prière, soit avant. Voyez, peut-être de prendre. Si je sors du boulot, un boulot très 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 stressant, que je dois prier, c'est peut-être pas idiot de m'arrêter 5 minutes, de prendre une tisane, de me décontracter un peu, de faire un peu quelques mouvements, un peu de respiration avant d'aller prier. Oui. Une détente physique, puis aussi une distance prise par rapport aux soucis pour un abandon, une réceptivité. Voyez, tout ça, ça va ensemble. Hein. Et parfois, le corps peut être utile justement pour aider l'âme et l'esprit à devenir réceptif. Oui, donc il faut tendre à ça. Oui, donc alors le recueillement, c'est donc un état de où on est dans l'instant présent, dans un état de détente corporelle, psychique et spirituelle, qui permet une réceptivité. Et puis le deuxième ingrédient du recueillement, c'est l'attention à une présence, être polarisé par une présence. Alors c'est un peu une manière de redire des choses que j'ai déjà dit. Vous voyez, donc ce qu'il faut faire dans la prière, c'est donc ce qui favorise ce recueillement. Alors, tout en sachant que parfois on arrive à l'obtenir assez facilement, bon, parfois c'est beaucoup plus difficile. Mais bon, Dieu voit la bonne volonté. Il ne faut pas en faire un drame. Oui, mais autant qu'il dépend de nous, donc favoriser cela. Donc à la fois ce recueillement, cette détente et cette attention donc à une présence. Et quand on est dans, et c'est ce qui se passe dans l'état que je décrivais tout à l'heure, vous voyez, à la fois on est paisible, on est détendu, on est réceptif, et en même temps, on est en présence de Dieu, par amour. Et donc quand on est dans cet état, il faut y rester ou l'entretenir doucement par des lectures, des considérations, des petits actes, mais, vous voyez. Bon, quand on n'y est pas, eh bien, les méthodes que j'évoquais tout à l'heure servent à nous y introduire. Vous voyez? Donc, et c'est un peu ça la règle. Oui, qu'est-ce qu'il faut utiliser ou ne pas utiliser? Eh bien, ce qui favorise l'entrée dans ce recueillement, et quand on y est, eh bien, y rester ou l'entretenir doucement. C'est un peu l'objectif qu'il faut nous fixer, bon, qu'on réalise plus ou moins, parce qu'il y a aussi des choses qui sont de l'ordre d'une grâce. Il y a ce qui dépend de nous, puis ce qui dépend pas de nous. Et donc, justement, alors, il faut cet état de détente, de réceptivité dans l'instant présent, et puis être attentif à la présence de Dieu. À nous. Alors, ça peut être donc la présence dans l'écriture, ça peut être la présence eucharistique, ça peut être Donc à travers la méditation, ou aussi ça peut être la présence de Dieu à travers une parole qu'on répète, à travers un rosaire qu'on récite. C'est sûr que dire le réjouis-toi, c'est quelque part proclamer l'Évangile. C'est rendre Dieu présent à travers Marie, dans notre vie. Donc c'est un moyen de toucher une présence. Tout en sachant, comme je le disais au début, que ce qui nous fait toucher la présence de Dieu, c'est l'acte de foi. Et donc, je crois que c'est un petit peu ça qui est central dans la vie d'oraison. Essayer d'entrer dans ce recueillement qui est à la fois ouverture, détente, abandon et accueil d'une présence. Alors parfois il suffit, tout simplement, comme deux personnes qui s'aiment et qui ne disent rien de spécial, mais qui sont heureuses d'être en présence l'une de l'autre. Donc une oraison de simple présence, si on y est, ben ma foi, tant mieux, il faut pas chercher midi à 14h. Mais c'est une grâce déjà. Cette grâce, on l'a pas toujours, alors quand on l'a pas, donc il faut essayer de rechercher de manière plus active cette présence. À travers les moyens que j'ai évoqués, la méditation de l'écriture, la répétition ou une prière qu'on récite. Oui. La petite Thérèse, elle dit que souvent, quand elle avait du mal à prier, qu'elle n'arrive pas à se concentrer, bien, elle récite lentement à notre Père, à Je vous salue Marie, et que souvent ça l'aidait beaucoup à trouver un certain recueillement. Bon, autant qu'il dépend de nous. Alors si on trouve, donc il y a cette part active, alors soit on est dans le recueillement et on y reste, on l'entretient, soit on n'y est pas et on le cherche à travers un petit peu ce que j'ai dit. Si on y arrive, tant mieux, si on n'y arrive pas, bon, on n'en fait pas un drame. Et si il y a en nous cette bonne volonté, bien Dieu sera fidèle et à nous rendra notre vie de prière féconde.